Mais je vous avais promis de pouvoir rebondir les uns sur les autres, et notamment M. Akgül, qui n'avait pas pu terminer ce qu'il avait à dire. Donc,
oui, mais justement, voilà. ça tombe bien, parce que je peux rebondir sur la question de l'Europe puissance. Et l'Europe politique, quand vous dites, peut-être c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est la même chose pour moi. Pour les fédéralistes qui souhaitent une Europe puissance, ça paraît assez paradoxal d'ailleurs qu'ils refusent la Turquie, puisque la Turquie pourrait accroître la puissance militaire, parce qu'ils désirent une puissance disposant d'un bras armé qui peut contraindre dans une perspective coercitive. Et donc la Turquie qui peut accroître cette puissance militaire, et puis d'ailleurs son adhésion pourrait permettre aussi son éloignement vis-à-vis des États-Unis, donc réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais comme il y a plusieurs ambiguïtés à l'origine de ce concept d'Europe puissance, d'Europe politique, etc., c'est qu'on n'a jamais discuté pourquoi une puissance, pour faire quoi. En fait, on comprend bien quand on regarde de l'extérieur, dans les discussions, en Europe, on voudrait bien redevenir une puissance pour modeler le reste du monde dans ses propres intérêts, mais faire ça sans ressembler ni à l'Europe du 19e siècle, ni aux États-Unis du 20e siècle. Donc il y a déjà cette ambiguïté-là à l'origine du concept d'Europe puissance. Et il y a aussi une absence de consensus. On fait comme si tous les pays européens voudraient une Europe puissance. Il y a très peu de pays qui désirent ça. Bon, à ma connaissance, c'est la France. Peut-être pas l'Allemagne, difficilement on peut parler qu'il désire. Oui, les Polonais peut-être. Les Polonais, ils auraient plus confiance aux Américains qu'aux Européens, ce sont des attentistes. C'est-à-dire, ils sont partisans d'une Europe puissance, mais ne pas le faire contre les États-Unis. Le problème se pose au niveau, en France, il me semble, qu'on envisage une puissance pour contrebalancer le poids des États-Unis au sein de la coalition occidentale. En fait, c'est la discussion, c'est qui va être l'hégémone au sein du camp hégémonique. Hein, c'est ça. On l'envisage contre les Américains. Quand les fédéralistes, c'est-à-dire les tenants de l'Europe puissance, rejettent la Turquie, leurs arguments consistent à dire mais c'est un pays très important, il a un poids considérable, il aura un poids très important au sein des institutions, au niveau du Conseil et au Parlement. C'est un pays qui va envoyer autant que l'Allemagne, des députés autant que l'Allemagne. Donc, toutes ces craintes-là, c'est vrai, l'adhésion turque va réduire le nombre de coalitions gagnantes au sein du Conseil. Ça, c'est évident. Les quatre grands, par exemple, le poids des quatre grands passe de 54 à 46% quand on fait la somme des voix. Et aussi, l'adhésion turque traduit aussi la crainte de se voir renforcer le groupe de pays qui sont méfiants à l'égard d'un certain leadership. Hein, et mettons son nom, c'est l'axe franco-allemand. Et dans les discussions, assez souvent, les fédéralistes, ils croient qu'ils vont fédérer l'Europe, mais ils vont diriger eux-mêmes, enfin, c'est eux qui vont diriger, et le reste va suivre, ce qui n'est pas évident. Quand on parle avec un Polonais, il n'est pas du tout cette opinion. J'avais écouté une fois Borislav Geremek, il émettait justement ses craintes vis-à-vis d'une Europe fédérale dominée par un certain pôle. Juste la remarque, parce que les discussions sur l'identité également, on retrouve toujours ce noyau, hein, c'est l'Europe occidentale, continentale, hein, c'est l'axe franco-allemand, hein, qu'on suppose que cet axe va conduire. Bon, c'est compréhensible parce que ce sont les pays fondateurs, évidemment, mais il y a derrière tous ces débats, il y a ce point-là aussi qu'il faut relever. Et juste aussi un autre point, mais peut-être qu'il n'est pas en liaison avec cette question d'Europe puissance politique, fédérale, etc., c'est, je voudrais quand même revenir à la pertinence du classement de Huntington. J'insiste là-dessus, parce que, pour moi, ce n'est pas un classement pertinent. Parce que même dans son ouvrage, la Turquie le dérange. Il va parler de la Turquie. C'est un pays déchiré. Les élites sont occidentalisées, ils n'arrivent pas à caser. Ça prouve bien que ces ensembles ne sont pas pertinents. Il c'est grossier.
Plus, il ne peut plus le changer maintenant.
Je ne dis pas.
Il ne peut plus le changer.
Il ne peut plus le changer. Non. C'est, hélas, oui. Bon, hélas pour lui. Ce que je veux dire, c'est grossier. C'est un classement grossier. Et la Turquie le dérange beaucoup dans son ouvrage, ça revient plusieurs fois. Ouais, c'est un pays déchiré. Les élites, ils veulent l'Europe, mais en fait, la population ne veut pas. Bon, c'est exactement ce genre de discours. Oui, M. Huntington connaissait très bien l'opinion publique turque. Donc, il avait. Je me méfie lorsqu'il y a une théorisation globale, donc qui explique le monde. Il faut être très très attentif pour ne pas marcher dans ce genre de clivage. Voilà, merci.
Merci, mais je suis tout à fait d'accord. Simplement, il me semble qu'en effet, une partie des réticences occidentales, au sens large, et notamment françaises, sont d'une certaine manière huntingtoniennes, c'est-à-dire qu'elles épousent cette grille erronée de lecture du monde. Olivier voulait rebondir sur la question Europe puissance et fédéralisme.
Je rebondis sur ta remarque. Je ne crois pas que ce soit le problème principal. La Turquie en France, évidemment, il y a l'aspect musulman, il y a l'aspect immigration aussi. Mais ça n'a rien de commun en France avec la question turque peut être en Allemagne, tout simplement parce qu'on a une immigration turque en France relativement faible. Donc ça n'est pas ça le sujet principal. Ça existe, c'est en arrière-plan, mais c'est faible, on le voit dans l'opinion publique. Ces arguments-là, c'est des arguments d'opinion publique. Et ils sont faibles. La preuve, c'est quand on dit, ce sondage est absolument éclairant, quand on leur dit, mais si la Turquie évolue et donc qu'elle se met au gabarit européen, est-ce que ça pose un problème? Réponse, non, ça pose pas de problème. Majoritairement, les gens sont pour. Et moi, je l'ai vécu dans une campagne politique où la question européenne était au cœur de la campagne. Franchement, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème central. Le problème central, c'est que la Turquie, pays musulman, et la question de l'immigration turque, c'est pas le problème central. Le problème central, il est en haut, il est sur le projet européen. Il est sur le projet européen. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est Giscard. C'est pas le citoyen de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pas vrai. Ça n'est juste pas vrai. Alors, sur l'Europe puissance, je nie pas que ce problème existe, mais il est surmontable. Et de nouveau, ce sondage le démontre assez bien. Sur l'Europe puissance, vous posiez la question, à quoi sert l'Europe puissance? L'Europe puissance, c'est un délire français, en gros, mais ça sert à quoi? Alors, ça sert à peser sur la scène internationale. Mais pourquoi faire? Juste pour se redonner le blason de la puissance? Non. Je pense que l'Europe a un message, qu'elle est consciente de ça, elle a un message très fort à porter au niveau mondial, qui est celui du multilatéralisme. En réalité, elle a réussi à faire, en quelques années, en interne, un exploit historique qui est de bannir la guerre entre les nations, alors que je fais partie d'une génération qu'il a oublié, puisqu'on a toujours vécu la paix, mais les Allemands et les Français constituaient deux peuples en guerre permanente, et le reste des Européens était en guerre permanente depuis 2000 ans. Et ça s'est arrêté d'un coup. Et l'Union européenne y a très grandement participé en mettant en place un système de régulation de ses membres, de dialogue, de négociation, et de nouveau, en cas d'échec des négociations, d'arbitrage pacifique par une instance tierce reconnue par tous, la Commission européenne et la Cour de justice, deux instances tierces, qui permettaient de bannir les conflits, et les conflits les plus durs étant évidemment les conflits militaires. Ce modèle-là, qui est un succès exceptionnel au regard de l'histoire, ce modèle-là, nous, Européens, souhaitons aujourd'hui le promouvoir à l'échelle internationale. Échelle internationale qui est restée dans des modes de fonctionnement, en tout cas jusqu'à présent, dans des schémas mentaux qui étaient celui du monde de l'Europe d'hier, c'est-à-dire du concert des nations qui sévissait en Europe, du rapport de force, du monde kelsénien, brutal, brutal, violent, de rapport de force, de guerre entre nations. Ce monde-là, nous l'avons quitté, nous voulons proposer au monde de nous rejoindre et donc de le réguler de la même manière à travers ce qu'on appelle le multilatéralisme, qui est une idée européenne et qui s'oppose au, quand vous entendez le monde multipolaire, Chirac utilisait parfois ce terme, le monde multipolaire, c'est l'autre monde, c'est le monde du concert des nations, c'est le monde du rapport de force. L'Europe promeut le multilatéralisme et donc la régulation par la négociation et la norme. Il y a deux façons pour l'Europe de promouvoir ce multilatéralisme, et donc de sortir de son lit pour se projeter sur la scène internationale. Il y a l'Europe puissance. C'est de se doter des attributs de la puissance pour pouvoir négocier et imposer au niveau mondial, imposer, on n'arrivera pas à imposer, mais négocier cette régulation internationale, cette ONU qui marche. Ça, c'est l'option numéro un. Et pour pouvoir le faire, il faut bien des attributs de puissance. Il faut notamment des attributs de négociation, donc une diplomatie européenne. Il faut commencer par ça. Et accessoirement, il faut avoir la capacité à faire peur. Et donc la hard power, un minimum de puissance militaire, pour dire à ceux vraiment aux très grands récalcitrants qu'on peut quand même avoir recours à la puissance militaire si on n'y arrive pas. Ça, c'est l'option 1. L'option que défend la France, effectivement. L'autre option, c'est de s'étendre. C'est pas de se doter de la puissance pour essayer d'imposer aux autres le modèle multilatéral. C'est de s'étendre et de devenir à le même monde, de devenir, en entrant en expansion, de devenir à le même un jour le monde. Et c'était le modèle que je vous décrivais tout à l'heure d'Europe-monde et donc d'élargissement indéfini qui répond à cet objectif aussi.
Alain, et puis...
Oui, trois petites remarques. Je ne pense pas qu'il faille identifier Europe fédérale et Europe puissance. Alors, c'est vrai que, et c'est, je pense que le fameux article de Kagan sur l'opposition entre les États-Unis et l'Europe, l'Europe et... Kantienne et les États-Unis sont obsiens, c'est vrai, c'est à peu près comme ça que l'Europe joue sa possibilité d'être une grande puissance par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire, nous, on n'est pas grand par la violence, on est grand en offrant un système de régulation pour le monde qui est celui qu'on applique déjà chez nous. Bon, le modèle kantien. Cela dit, ça c'est le discours. Vous savez très bien que dès qu'il y a une crise, le discours, il change en trois jours. Hein. Donc, rappelez-nous au moment de la guerre d'Irak, hein, au moment où les tensions étaient assez fortes, où un haut personnage de l'administration Bush disait « punir la France, oublier l'Allemagne et pardonner à la Russie ». La France était, il y avait des sondages montrant que les Français étaient pour la fusion immédiate de la France et l'Allemagne. Donc, il se posait bien la question de la puissance, la vraie, hein, la militaire. Et quand vous regardez les chiffres cités à la page...
les dépenses.
Non, sur opinion publique favorable à l'adhésion turque, oui, et croyance en Dieu, regardez qui est favorable à l'adhésion turque. C'est la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, enfin, tous ceux qui ont un problème avec la Russie. Mais c'est comme ça depuis le 19e siècle. Hein. Toute l'Europe de l'Est est massivement pour l'adhésion turque. Et au Parlement européen, chaque vote, c'est comme ça. Y compris les cathos. Parce que les Turcs sont les principaux ennemis de ces salauds orthodoxes que sont les Russes. Mais c'est comme ça depuis le 19e siècle. Enfin, faut quand même revenir de temps en temps au rapport de force selon les trébuchants. Il est évident que pour n'importe quel Polonais ou Lituanien, pour qui le problème numéro un, c'est la Russie de 100 millions d'habitants, va-t-elle ouvrir avec ses chars le chemin jusqu'à l'enclave de Kaliningrad-Königsberg, hein? La réponse pour empêcher ça, c'est soit on reste sous le parapluie américain, soit si c'est l'Europe, alors c'est l'Europe avec la Turquie. Car si les Russes font ça, la Turquie de 100 millions d'habitants également peut immédiatement mettre la main sur le pétrole de Bakou. Mais c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et ils sont européens comme nous. Hein, ils sont dans l'Union européenne, eux. Ils font partie du processus de décision, eux, au même titre que nous. Français, je veux dire. Hein? Donc, quand on raisonne en tant qu'Européen, on est obligé de savoir qu'à certains moments, une partie de l'Europe la plus à la frontière, de la Russie, raisonne en termes de puissance. Et c'est normal. On ne va pas leur dire, vous cessez d'être pro-américain, vous êtes pro-européen, sans leur déployer un parapluie au moins égal à celui que pensent-ils. C'est pour ça que la représentation au second degré est très importante. C'est pas ce qu'ils pensent de ce que pensent les Russes, c'est ce qu'ils pensent qu'on peut penser. Hein. Est-ce que les Américains mourront-ils pour Kaliningrad, hein? Non, peut-être, mais peut-être que les Turcs voudront bien. Enfin, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Bon, alors je crois que c'est très important de ne pas être, enfin, de ne pas tomber non plus dans l'angélisme. Nous sommes les vrais kantiens et on ne fera plus jamais de hobbesisme. Hein. Bon. Deux, sur la question, je suis tout à fait d'accord avec la formulation qui a été donnée. Au fond du fond, dans la querelle inter, ce qu'il y a de vrai dans l'Huntingtonien, c'est, et qui n'est pas du tout effectivement une question religieuse, c'est la place de la religion dans l'espace public. Et je suis totalement d'accord que ça oppose largement la Turquie au Maroc. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein, je sais pas, ouais, sur mon blog, il y a une discussion sur le rapport entre Victor Hugo et Orhan Pamuk. Et à un moment, je dis, mais en fait, il nous décrit un monde, Pamuk, où idéalement, c'est pas très différent de la France de 1950, c'est-à-dire avec des bonnes sœurs à cornettes sans que ça pose de problème. Bon, après, j'ai réfléchi, c'est pas tout à fait juste, parce que quand il y avait les bonnes sœurs à cornettes, il n'y avait pas le droit à l'avortement. Enfin. Il faut voir que c'est très compliqué, mais en Turquie c'est l'inverse. Donc c'est des problèmes compliqués, mais c'est à peu près ça. C'est une laïcité ouverte qui est visée. Bon. C'est pas du tout le cas du Maroc, attention. La laïcité ouverte s'oppose à la fois à ceux qui veulent un césaropapisme ou l'inverse, ou un truc à la démocrate chrétien genre italien. Hein. C'est-à-dire où on interdit l'avortement parce que les démocrates chrétiens sont majoritaires, ou irlandais. C'est un truc entre ça et l'athéisme d'État qu'attaque le bouquin de Pamuk, avec lequel il faut vivre en France assez souvent de façon assez pénible. Bon. Donc, c'est vraiment la place, et c'est la métonymie de la question de la Turquie, la métonymie de ce problème-là pour la France. Troisième problème, la diversité interne de la Turquie. C'est un problème dont je ne sais pas, comme j'étais pas là ce matin, je n'ai pas vu à quel point ça a été discuté. Mais il faut bien voir que quand les Français discutent de la Turquie, ils pensent à Anatolie. Ils ne pensent pas à Edine, ils ne pensent pas à Constantinople, ils ne pensent pas à Antalya. Alors, ils y vont quelquefois en vacances, mais ils savent qu'au-delà, c'est très bizarre par là-bas. Et c'est vrai que c'est bizarre par là-bas. C'est vrai que c'est bizarre. Quand on se retrouve vers Kars, effectivement, quand on va visiter le lac de Vannes, c'est pas l'Europe, a-t-on l'impression. Bon. Donc, alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Même pas la Sicile, la Sardaigne, encore plus proche, ou la Corse pour la France. Rappelez-vous, Palme d'or du Festival de Cannes, le film de Taviani, Padre Padrone. Hein, Padre Padrone, vous attendez les cinq dernières minutes quand il commence à discuter du prix des olives fixé par Bruxelles pour comprendre que ça se passe pas au Moyen-Âge mais dans l'Union Européenne. Je crois que c'est on ne peut pas discuter de la Turquie sans revoir Padre Padrone. Il faut bien comprendre que dans les compromis qui permettent d'accepter le fédéralisme, alors non pas comme Europe politique, mais à peu près la même législation sociale partout pour qu'il y ait concurrence aux Français. Hein. Mais c'est ça pour nous, le fédéralisme, pour les Verts en tout cas. Ce n'est pas l'Europe puissance. C'est ce qui permet de vivre ensemble dans un espace politique intégré permettant de dominer la dictature du marché et le fait que si on fait une mesure sociale ou une mesure écologique ici, on ne veut pas que les usines aillent là où il n'y a pas les mêmes mesures, les mêmes règles sociales, les mêmes règles écologiques. C'est ça, pour moi, le fédéralisme. Et la Suisse, de ce point de vue-là, est fédérale. Elle n'est pas que confédérale. Hein. Bon, bah, si on veut ça, il faut admettre qu'à un certain moment, ça voudra dire qu'on fait un compromis avec l'agriculture anatolienne, un compromis politique. Exactement comme on a accepté de le faire avec le Mezzogiorno italien, avec la Corse, avec... du point de vue des Allemands, la Bretagne de 1957, c'était pas beaucoup plus développée que la Sardaigne. Hein. Enfin, non, l'Allemagne avec d'autres problèmes de reconstruction, mais disons de 63, allez. Hein, au moment où on fait vraiment la PAC, hein, le fardeau que représentait pour l'Allemagne la plus grande partie de l'Europe à 6, à l'Europe à 6, hein, était énorme. Bon, on peut bien se payer pour le gain qu'on y aura, et qui ont été très bien énoncés, la charge de l'Anatolie. Alors, quand même, j'insiste hein, vraiment que la question religieuse et son rôle métonymique, hein, vraiment dans la façon dont nous on va le gérer, est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement importante, et que si on n'arrive pas à dire que c'est un problème que nous avons à faire sur nous-mêmes, on aura toujours du mal avec la Turquie en tant que exemplification, peut-être plus ébullition, hein, des problèmes que nous avons nous-mêmes.
Je voudrais continuer justement dans cette veine-là. Vous savez, quand on pose la question à la population, surtout en France, de l'adhésion de la Turquie ou de l'Europe en général, franchement, l'homme de la rue, l'Europe puissance, l'Europe politique, par contre, il sait parfaitement ce que c'est son voisin arabe, qui est musulman, qui est différent, et c'est extrêmement important, on ne peut pas nier ça. Hein. C'est un phénomène sociologique, et on peut toujours chercher à remplir les notions creuses comme l'Europe puissance, mais le voisin, il est là. Sincèrement, et ce n'est pas forcément contre les Turcs, je suis d'accord avec vous, mais il y a une osmose permanente entre l'islamophobie et la turcophobie. Et ça, depuis que l'éventualité de l'adhésion de la Turquie est devenue d'actualité en 2004. Vous savez, la politique ne s'y trompe pas. Le comité directeur, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, de l'UMP de mai 2004, présidé par Alain Juppé, qui est mis sous pression par Nicolas Sarkozy, à l'époque qui n'était pas encore le président du parti, eh bien, Alain Juppé, il a été mis en minorité, et il n'y a que Hubert Hanel qui a voté pour, et tout le reste a suivi Nicolas Sarkozy, et parce qu'ils voyaient venir, parce qu'ils étaient sûrs qu'à la fin de l'année, donc en décembre 2004, on allait donner le feu vert à ce que la Turquie passe à l'étape finale des négociations. Il faut savoir comment et sur quel pied dansent les politiciens. Et là, je voudrais revenir sur ces fameuses opinions publiques. C'est vrai que, je vais être méchant, les opinions publiques sont faites pour être pour être manipulées. Mais, vous savez, il n'y a pas, en tout cas sur la Turquie, il n'y a pas aujourd'hui, au dernier Eurobaromètre, il n'y a pas une seule opinion publique dans les pays, chez les 27, qui soit clairement pour l'adhésion de la Turquie. C'est pas nouveau. Il y avait les Espagnols, ils sont pas passés en dessous de la barre des 50%, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le seul gouvernement, je dis bien gouvernement, c'est pas le pays, qui use et abuse de cette opinion publique négative, c'est malheureusement celui de la France. Et tous les autres gouvernements, soit ils sont indifférents, soit ils font de la pédagogie, comme dans le nord de l'Europe. et donne le temps au temps. Et c'est extrêmement important. Et alors, pour revenir à ce que je disais par rapport à la place de l'islam dans l'espace public, donc, là, si vous voulez, l'islam turc ou l'islamophobie ou la turcophobie, enfin, tout ça, ce sont des notions ou des sentiments, connotations totalement négatives. C'est considéré comme une charge, comme un fardeau, comme un problème à gérer, comme un dossier de crise, et d'où d'ailleurs les décisions du gouvernement Sarkozy pour geler 5 chapitres de négociations sur 35. Donc, alors, charge ou chance ? C'est là où il faut retourner le débat, à mon avis, et voir que en France, on a du mal à coexister avec l'islam. L'universalisme républicain, il accepte tout le monde, sauf l'islam. Il y a une espèce de communautarisme républicain, hein, qui a du mal à composer avec l'islam. C'est ça le vrai problème. Et là, à mon avis, la Turquie et le débat qu'il y a lieu en Turquie par rapport à la place de l'islam dans l'espace public est une chance, justement, pour qu'on puisse enfin coexister avec cet islam publiquement, pas à travers ces angélismes, disant on n'a pas de problème avec les religions des gens, etc. Donc, vraiment, c'est un... Et là, il faut peut-être retourner tout ça. C'est qui va le faire ? Les citoyens. Le débat va y arriver. Moi, j'attends rien des politiciens, hein, de ce point de vue-là. Alors, merci.
Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je crois qu'il y a, pour avoir, avec une autre casquette, travaillé sur les questions d'islam en France, à la commission islam et laïcité notamment, etc., il y a un recoupement très strict entre l'islamophobie ou les craintes vis-à-vis de l'islam en général et totalement indépendamment de la Turquie, et les craintes vis-à-vis de la Turquie totalement indépendamment de la religion. De fait, c'est bien la même question qui est à chaque fois recouverte, traitée. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes types d'arguments qui reviennent systématiquement. Donc, je suis en désaccord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rapport. Ce n'est pas sans rapport avec la question du projet européen, parce que précisément, pour qu'il y ait projet européen, il a fallu, d'une certaine manière, et il faudrait peut-être que la France aille jusqu'au bout de la renonciation à son projet impérial. Et c'est bien un rapport aussi avec cette histoire-là, qui est l'histoire de France, et la complexité de cette histoire autour du projet impérial de la République impériale française, qu'il y a un problème. De la même manière que, je dirais, les Turcs ont eu à confronter leur, et ont peut-être encore à confronter leur passé impérial, je pense que la France a aussi à confronter le sien. Ce n'est pas sans rapport, parce qu'il ne peut pas y avoir de projection dans l'Europe si on ne liquide pas l'héritage impérial. Mais c'est un...
Je suis en désaccord avec ça, et c'est très important parce qu'en termes de stratégie pour l'adhésion de la Turquie, ça définit une stratégie complètement différente. Regarde Badinter. Badinter, il n'est pas islamophobe. Il est islamophobe. Badinter, Giscard, islamophobe. La réalité, non. C'est que Giscard, c'est le meilleur exemple. Ou la Mazour, voilà. Il se projette sur un projet européen. Et on voit bien, il suffit de se balader dans les cercles européens pour se rendre compte que ils ne sont pas du tout turcophobes, ils sont juste, ils considèrent que la Turquie n'est pas compatible avec leur projet européen. Ils ont beaucoup d'amitié pour la Turquie. Balladur, c'est un bon exemple quand même, Balladur. Balladur, il est d'origine turque.
Le Pen,
il est d'origine turque, il n'est pas turcophobe. Pourtant, il n'est pas pour la Turquie dans l'Europe. Donc, c'est bien. Le sujet n'est pas là. Et bon, je suis marseillais d'origine. Je prends Marseille comme exemple. Marseille, il y a des tensions. Il y a encore, même s'il y a aussi des éléments de résolution de cette tension, mais il y a des tensions que tu pourrais appeler islamophobes. Mais elles se dirigent vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis du Maghreb, vis-à-vis du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Vis-à-vis de la Turquie, à Marseille, le problème, ce n'est pas du tout l'islamophobie. Le problème, ça va être les Arméniens. Ah oui, là, il y a un problème arménien. Mais pour un citoyen, peut-être, enfin, en tout cas, ils n'arrivent pas à résoudre un problème historique d'une autre nature. Non, c'est d'une autre nature. Je vous prends vraiment du micro, d'un exemple micro, mais c'est, je trouve que c'est, il y a une vraie disjonction. C'est, il n'y a pas d'association en France, ou en tout cas, cette, l'association existe, bien sûr, je ne vais pas m'auto-caricaturer, mais l'association entre l'islam et la Turquie en France est faible, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'immigration forte turque en France, et donc ça fait quand même une grosse différence. Et que par ailleurs, on va parler très brutalement, la question du faciès se joue aussi. Franchement, pour reconnaître un Turc, même dans l'immigration française d'un Serbe, bien souvent, c'est compliqué quand même, hein, ou d'un Italien.
Ils disent qu'on n'est pas comme un Turc.
Hein ? Mais non. Voilà. Et donc, cette analyse-là. Elle aboutit, je pense, vraiment à une erreur. Par exemple, l'argument sur le dialogue des religions, est un argument, c'est l'argument utilisé par Rocard, c'est un argument qui, en réalité, heurte les pro-européens, parce qu'il transforme l'Europe en lieu de pacification des civilisations, et donc nie leur projet d'Europe politique. Alors que si vous dites à l'inverse, la Turquie, contrairement au Maroc, à d'autres pays, la Turquie est un pays européen, et nous pouvons le prouver, à ce moment-là, tu rentres dans la logique du projet politique des pro-européens.
C'est pas tout à fait contradictoire, mais on est quand même en désaccord sur ce point. Mais je ne vais pas le relancer, on va ouvrir le débat, peut-être que... Il y a d'autres points de vue qui sont... Alors, je ne sais pas s'il y a un micro.